plus lire, lire. À quoi ça sert finalement ?
À quoi bon ?
Ouais, franchement, enfin, quand même, ça fait un peu voyager.
Et puis, ça fait rêver.
Ça ouvre les fenêtres et l'esprit.
Ça rend plus fort.
Ah ouais, tu crois vraiment ?
Non, je suis pas sûr sur celui-là.
Peut-être ça élargit la vision qu'on peut avoir du monde, tu crois pas ?
Ah bah ça c'est sûr.
Ouais. Et puis, tu crois que ça rend plus beau ?
Eh ben je sais pas, il faudrait essayer peut-être.
Ah, il faut essayer. Mais surtout, lire des livres. Bounsoun, bonjour à toutes et à tous. Ici Paz, on se retrouve pour une nouvelle saison, lire des livres. Et aujourd'hui, je suis très très heureuse d'accueillir Anka Visdey. Bonjour Anka.
Bounsoun, bonjour.
Alors, on va commencer tout simplement par une petite présentation. Et comme quelquefois, les auteurs sont un peu réticents à dévoiler toutes les facettes de leurs activités.
Oh oui, vous avez raison.
Bon, bah déjà, comme vous venez pour un livre, on sait que vous écrivez.
Ah, c'est déjà beaucoup.
Et cette fois, il s'agit d'une biographie, celle de Alberto Giacometti. Et vous en avez... écrit deux autres, à ma connaissance.
Absolument.
Oui.
Jean Anouilh, que j'ai personnellement connu, et ça, c'était un grand privilège, et Orson Welles.
Oui. Alors, on verra après pourquoi avoir choisi Alberto Giacometti en troisième. Mais bon, donc, vous n'êtes pas que biographe, vous écrivez aussi sous d'autres formes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, comme j'ai une formation de metteur en scène de théâtre, j'ai commencé par écrire du théâtre, beaucoup. Je crois que j'ai fait une cinquantaine de pièces qui ont été publiées, jouées, traduites. Il y en avait récemment au Festival d'Avignon. Et ensuite, j'ai fait un roman chez Actes Sud, un deuxième, chez Actes Sud toujours. Et les biographies, ça a été une sorte de besoin de la maturité que je fais avec un immense, immense plaisir.
Alors, est-ce que vous pouvez développer un peu un besoin d'écrire des biographies ?
Oui, c'est-à-dire que l'un de mes maîtres en écriture était Jean Anouilh. Je trouvais qu'il avait une qualité d'humour et en même temps de sérieux qui ne se la jouait pas, on pourrait dire entre guillemets. Donc je l'ai toujours admiré, j'ai commencé à le lire à 14 ans parce qu'il est une lecture pleine de... passion et plein d'honnêteté, donc ça convient très bien aux adolescents. Et plus tard, quand je suis arrivée en Suisse, je l'ai rencontré en interview. Il avait une réputation d'homme très dur, c'était absolument faux, il était absolument adorable et extrêmement aimable avec les jeunes et passionnés de théâtre. Donc une longue amitié s'en est suivie. Puis j'étais en train d'écrire des romans, mes pièces fonctionnaient, étaient jouées un peu partout, je faisais la mise en scène. Anouilh était mort. Et en 91, et vers les années 2000, quelqu'un m'a dit des choses inexactes sur Anouilh, beaucoup de choses inexactes. J'ai dit, bah, écoute, vous trompez, il n'y a qu'à lire. Et là, j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune biographie d'Anouilh, aucune. C'était un homme secret, pudique. Donc, il ne s'affichait pas beaucoup. Et j'ai parlé auprès d'un éditeur qui était Bernard de Valois et qui m'a dit « Mais écoutez, ça serait une grande chose qu'on ferait pour la littérature française si on faisait la première et la seule biographie de Jean Anouilh. » Donc ça a commencé par un besoin un peu filial de remettre les choses en place et donner une image de quelqu'un qui était très discret mais qui au fond était une sorte de saint laïque avec de l'humour et de la sympathie et de l'empathie. Donc du coup, j'ai écrit sa vie et c'était un homme auquel je ne trouvais pas de défaut. Je parle bien de l'homme, pas de l'auteur, bien que j'estimais l'auteur aussi. En faisant mon enquête pendant environ un an, j'ai trouvé 1000 autres choses meilleures que ce que je connaissais de lui et qu'il cachait d'habitude. Des choses de charité, d'amitié, de soutien dont il s'était jamais vanté. J'ai vu qu'il avait caché des juifs pendant la guerre, enfin c'était remarquable. Et je me suis dit, tiens, comme c'est intéressant de fouiller une vie, cet homme que j'ai si bien connu, au fond j'en ai découvert plein d'autres côtés. Et ça m'a donné l'idée de parler de Welles. Pourquoi de Welles ? J'avais été critique de cinéma et je trouve que son Citizen Kane, c'est un des meilleurs et des plus beaux films du monde. Et je me suis demandé pourquoi ce cinéaste cinéaste. Et ce mec est tellement doué qu'il a 22 ans, il fait ce chef-d'œuvre, après ne fait presque plus rien d'important. Donc, je suis partie dans une enquête, c'était un besoin de m'expliquer à moi-même pourquoi ce météore qui était parti si bien n'avait rien donné et même était parfois traité de raté. Et j'ai découvert effectivement non seulement qu'il n'était pas raté, mais qu'en plus il avait dédié sa vie à découvrir chaque fois des nouvelles choses. Et dès qu'il comprenait une chose, il passait à l'autre. Donc voilà comment le besoin à travers ces deux personnalités s'est manifesté. Et Giacometti arrivait tout naturellement parce que je me suis dit, tiens, les gens qui donnent un visage au XXe siècle. J'avais un auteur français, Anoui, j'avais un cinéaste américain fou de culture européenne. Et puis je me suis dit, mais comment ça se fait, moi, qui ai eu ma formation en Suisse, et humaine, et universitaire, que je n'ai pas pensé à en Suisse vivant comme moi, à Paris, et surtout en Suisse qui est plasticien. Alors que bon, mon père était architecte, donc comme beaucoup d'enfants d'architectes, je dessinais, je modelais depuis mon plus jeune âge, et je continue sans arrêt, c'est une manière d'exister. Donc voici comment la triade a été complétée.
Merci déjà, parce que ça répond à quelques-unes des questions que j'allais vous poser. Vous y avez déjà répondu, ça c'est magnifique.
Vous allez voir un peu le parcours de la bibliographie d'un écrivain, si au fond voir sa vie et son propre cheminement pour se connaître mieux.
Ah ben ça, je pense que c'est effectivement une grande réponse qui est sans doute commune à pas mal d'auteurs.
Oui.
Alors, vous nous avez dit que vous étiez arrivé en Suisse. Donc, avant, vous étiez où? Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu votre parcours?
Bien sûr. Je suis née en Roumanie où j'ai fait des études scientifiques, ensuite des études de mise en scène. À l'époque, dans les pays de l'Est, les écoles de théâtre et de cinéma étaient vraiment de très grande qualité, en Pologne, en Hongrie, en Roumanie. Et j'avais commencé à écrire. À l'âge de 14 ans, j'ai dû avoir ma première pièce jouée, ma première pièce publiée. Puis après, mon père qui était architecte a eu quelques soucis, comme on était la seule famille qui s'appelait Visdei. Du coup, moi, mes livres se sont arrêtés, on a voulu que je change de nom. Ce qui fait que nous voilà exilés, on est devenu réfugiés politiques en 1973. Donc je suis partie avec mon père, avec deux valises, et nous sommes arrivés à Lausanne. Donc, on a eu l'asile politique en Suisse et j'ai fait ma formation. Donc, j'ai dû recommencer le bac, j'ai fait des études de droit, de criminologie à Lausanne. Et c'était une époque magnifique. Et l'apprentissage de français, bien sûr, en même temps.
Pourquoi des études de droit?
Parce que, étant écrivain, ça c'est une question un peu d'orgueil, étant écrivain roumain et ayant pratiquement connu l'écriture avant toute chose, hein, 13 ans, j'écrivais avant de devenir femme, avant d'avoir une idée de profession. Donc, étant écrivain, je me suis dit, j'arriverai pas à écrire en français. J'arriverai pas à changer de langue. Donc, je me suis dit, quelle serait la formation qui pourrait à la fois avoir un grand rapport avec la langue, mais me permettre, avant d'entrer dans le champ du travail, d'arriver à maîtriser un peu la langue. Et il m'a semblé que passer par le langage juridique, ça serait une très très bonne idée. En plus, je me suis dit, si des fois j'arrive à réécrire en français, ce qui à l'époque semblait très illusoire et très lointain, si j'arrive à écrire en français, ça me donnera une sorte de base logique, rationnelle. Et ça, j'avais tout à fait raison, parce que le langage juridique a quelque part la précision, la scansion de latin. Donc ça vous donne toujours, toujours un cadre, une sorte de fluide bien maîtrisé entre la pensée et son expression. Quand j'ai fini mes études de droit, quand j'ai pris mon doctorat, 3 ans et demi, 4 ans après, et ben, je maîtrisais le français et j'ai commencé à écrire des critiques de cinéma dans un journal de Lausanne. Et voilà, c'était parti. J'écrivais en français.
Oui, et là, je tiens à rassurer les auditeurs. La biographie d'Alberto Giacometti n'est pas écrite du tout en langage juridique.
Ah, merci, vous avez raison.
Et alors, ben, peut-être pour rentrer directement et concrètement dans le livre, est-ce que vous pourriez nous lire l'avant-propos, enfin ce qui débute le livre, s'il vous plaît?
Bien sûr, avec plaisir, Paz.
Merci.
Monsieur Giacometti, j'ai tenté d'écrire votre biographie. C'est le troisième ouvrage de ce genre que j'entreprends. Jean Anouilh, Orson Welles, Alberto Giacometti. Ce sont mes choix. Trois artistes qui, à travers des disciplines artistiques différentes, ont donné l'image de l'homme du XXe siècle. Un Français, un Américain, un Suisse. Un écrivain, un cinéaste, un peintre et sculpteur. J'ai commis trois substitutions d'identité. Il s'agit bien de substitution et non d'usurpation. Pour moi, comme écrivain, c'était la seule façon d'envisager une biographie. Revenir sur les pas de mon personnage, de l'intérieur. Pour chacune de ces biographies, j'ai tenté d'investir la personnalité de mon sujet, d'habiter son corps, d'emprunter son regard. Cela commence par une enquête. Il faut que je sache tout, de la pointure des souliers à la couleur des yeux, du menu alimentaire au dossier médical, que je parle à tous ceux qui l'ont rencontré, que j'aille sur ces lieux de vie et de travail. Ensuite, vient l'exploration de l'œuvre, le moment le plus agréable, suivi par le travail de reconstitution, faire en sorte que le puzzle s'assemble, confronter les divers témoignages, les mettre en miroir. Ce n'est qu'après que l'on s'attelle à la partie émergée de l'iceberg, la rédaction. Refaire le chemin de la création, c'est créer. C'est ce que Giacometti a fait toute sa vie. La littérature concernant cet homme, qui n'avait eu à peu près que le travail, en fait de vie privée, était pléthorique, sans parler de l'abondance de l'iconographie. Giacometti demandait à presque tous ceux qu'il rencontrait de lui servir de modèle. Et ceux qui ont posé pour lui ont écrit un livre, voire plusieurs, relatant l'aventure. J'étais écrasée par le poids des responsabilités. Non celui du travail, je l'avais choisi pour cela. Mais écrire après tant d'autres, apporter autre chose qu'un texte de plus. Mon étoile polaire était mon intuition. Giacometti était un saint laïque, très humain, jamais trop. Un homme sérieux, une seule pièce, à la fois artisan, sage, ermite, travaillé par la tentation de la chair. Il était obsessionnellement entré, comme dans les ordres, dans une quête impossible. Il visait mieux que la perfection, enrôlé dans la recherche constante de nouvelles perfections. L'inaccessible étoile. Comment ai-je osé m'attaquer à lui? Il est trop grand, trop concentré, trop profond. Mais quelle chance de l'avoir choisi. Il dépasse tout le monde de trois têtes. Lui, qui dans son travail laborieux sans fin, eût aimé se faire oublier. Quand, au milieu du gué, j'étais en proie au doute. Je partais dans ses montagnes natales. Je traversais ses mayas et regardais sa maison. J'en revenais pleine de confiance, avec des réponses évidentes. De la nourriture aux fleurs, des pierres au balcon en bois, des traits sculptés des habitants de Bregaglia, au climat rude, je me retrouvais sous perfusion de cet univers qu'il avait reproduit inlassablement. Une terre éternelle, où chacun a sa place acceptée, unique et indispensable à la marche du monde. Parfois, je fonçais un jour ou deux à Venise, dont il avait foulé si souvent les fondamentaux et les ponts. Venise que je connaissais comme si j'y étais née, mais qui, revue à travers ses yeux gris avec des éclats de plâtre, me redonnait le là. Évidemment, je travaillais aux mêmes heures que lui. Il imposait la nuit jusqu'à l'aube. J'ai voulu travailler de jour, ce fut impossible. Au moment de la pire incertitude, prête à renoncer, je me trouvais au Liban, en train de visiter la grotte de Jeïta. Soudain, regardant les stalactites et les stalagmites, je me suis dit, mais c'est le travail d'Alberto, le temps à l'œuvre. Et c'était reparti. Il me semble maintenant, quand j'ai dû mettre le point final à mon texte, qu'il m'a tenu la main tout le temps, qu'il m'a réconcilié avec le doute, qu'il nous apprend le bonheur de chercher, d'essayer, d'effacer, de reprendre, de redire, de revenir, de ne jamais oublier ceci. Plus la tâche est complexe, plus il faut simplifier. Grazie, Monsieur Giacometti.
Vous êtes toujours sur Radio Albitzes avec Paz et son invité Anka Visdei, une émission enregistrée le 4 septembre 2019.
Grazie Anka pour cette magnifique lecture. Je trouve cet avant-propos vraiment très touchant, très humain. Donc un avant-propos sous forme épistolaire. Est-ce que vous avez procédé de la même manière pour les autres biographies ?
Non, pratiquement chacun de mes sujets, chacun de mes modèles, personnages, a imposé son rythme. Par exemple, chez Anouilh, qui était un auteur de théâtre, il y avait très souvent des dialogues. Je l'avais très bien connu, donc il y avait des échanges de dialogue entre nous. Mm-hmm. Pour Orson Welles, il y avait des descriptions de lieux et de personnages. Non, c'est ça qui est aussi très beau, parce que à part la recherche de données, il faut aussi que l'écrivain s'amuse un peu, qu'il retrouve toujours qu'il soit en amour avec son sujet, et en amour renoncé sans arrêt. Donc chaque sujet dicte son style, son modèle, et chacun a sa musique. Donc au bout d'un moment, quand on a assez cherché, assez connu l'œuvre, cette musique s'impose d'elle-même, et même le mode. C'est plutôt dramatique, c'est plutôt poétique, donc tout est différent.
Mmh. Alors pour vraiment rentrer dans le personnage, vous êtes parti sur les lieux de l'enfance d'Alberto Giacometti. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans quel géographiquement, où est-ce qu'il a grandi ?
Bien sûr. Et ce qui est très beau, c'est que je vous disais tout à l'heure que moi, j'ai connu l'exil à 18-19 ans. Et pour lui, c'était pareil. Il est arrivé à 19 ans à Paris. Donc ça veut dire qu'il a passé une vingtaine d'années. Et le lieu, c'est un lieu extrêmement intéressant. La Suisse est déjà en mosaïque de 23 cantons. Canton et demi-canton, mais lui, il est né dans un canton tout à fait particulier. C'est le canton de Grison, Grigioni en italien. Et ce canton, au fond, a pour langue dominante le romanche, qui est une sorte de langue latine laissée par les légions romaines qui s'étaient infiltrées dans les vallées entre la Suisse actuelle et l'Italie. Et pourtant, la vallée des Grisons, du canton des Grisons, de langue romanche, où est né Giacometti, qui est le berceau de Giacometti, parce que tout le monde s'appelle Giacometti dans le village encore aujourd'hui. cette vallée, qui s'appelle le Val Bregaglia, qui est pratiquement 20 km de l'Italie, parle italien. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà une minorité linguistique dans le canton. Ils ne sont pas du Tessin, du canton italien. Ils sont des Grisons. Et encore une autre particularité, contrairement à tous les autres italophones, la religion est la religion protestante, comme dans le reste des Grisons. Donc ça veut dire que c'est quelque part une double minorité, c'est-à-dire de langue italienne, et encore il y a même un dialogue, le Bregaiotto, qui est un dialogue de la vallée, et que Giacometti parlait avec sa mère, et en même temps de religion, ils sont protestants. Donc je trouve que cette particularité, creusée à fond, vraiment habitée jusqu'au bout, lui a donné sa personnalité. Une deuxième chose qui complète dans ce magnifique pays qui est en gros le Val Bregaglia, il est entre Sils Maria et Saint-Moritz, à 20 km de l'Italie. Dans cet endroit qui paraît un peu déshérité, qui est un endroit un peu dur, où les gens ont des grands chalets magnifiques, mais où une seule pièce est chauffée, et bien Giacometti n'était pas un paysan, son père était peintre. C'était un peintre qui avait étudié en Allemagne, en Italie, à Paris, qui avait une certaine réputation. Donc ce qui était formidable, c'est d'avoir dans cette vallée, au fond, un monde de culture, tout le monde lisait, s'écrivait, parlait plusieurs langues, et en même temps, depuis tout petit, Giacometti, sortant de l'école, allait dans l'atelier de peinture de son père. Donc c'est ça qui est extraordinaire, il m'a semblé qu'il était de tout point de vue une exception et qu'il avait assumé ce côté différent par la religion, différent dans un monde montagnard, le côté artistique et la langue aussi, la langue italienne dont il a été très proche et j'y pense peut-être aussi, c'est une passerelle, il a changé de langue. On voit dans ses carnets quand il arrive à Paris, 19 ans, 20 ans, 21 ans, il écrit encore dans ses carnets en italien. Et petit à petit, les notations, parce que très souvent, il copiait des œuvres, donc il se faisait des petites notations. Par exemple, il voulait faire la copie d'un tableau, puis il notait ici c'est marron, ici c'est... Vous savez, il faisait des flèches selon les couleurs. Et petit à petit, ça passe au français. de façon. Donc, ça veut dire qu'il a, en plus, malgré cette richesse et cette spécificité, en plus, il a changé de langue et il a changé de pays, car, comme il a vécu un peu plus de 60 ans, il a vécu au fond les deux tiers de sa vie en France.
Oui, dans un petit atelier parisien. Mmh.
Oui, tout à fait, à la rue Hippolyte Mindron.
Voilà.
On ne visite pas parce que les murs ont été déplacés et on peut les voir à la Fondation Giacometti, à l'Institut Giacometti, mais le lieu, si vous passez dans le 14e arrondissement, devant le 14 de la rue Hippolyte Mindron, on voit la cour et les petites cahutes, c'est le cas de dire cahutes parce que l'atelier était très modeste, exactement dans l'état où ils étaient du temps de Giacometti.
Effectivement, ça c'est assez époustouflant. Hein. Les murs de son atelier ont été emportés, enfin démontés, je ne sais pas le terme qui est le plus approprié.
Oui, c'est tout à fait le terme. Mmh.
Puisque Annette ne pouvait pas acheter le lieu, enfin c'est ce que j'ai lu. Et donc tout a été vidé et on a emporté, y compris les murs qui comportaient des fresques, qui étaient un peu l'intérieur de l'image de l'intérieur de son cerveau, de sa création.
Ah, c'est exactement ça. Ouais. On a l'impression très souvent, c'est une deuxième nature pour tous les gens qui dessinent, pour tous les dessins. On parle aux gens, on parle au téléphone, tout en dessinant, en esquissant. Mm-hmm. Or, sur la moindre enveloppe de courrier, Giacometti se mettait à dessiner. Quand il allait au bistrot, il dessinait sur les journaux. En Suisse, il lui arrivait de dessiner sur les nappes comme il le faisait à Paris. Mm-hmm. Et la serveuse lui a fait remarquer qu'en Suisse, enfin dans le Val Bergagna, les nappes étaient en tissu et qu'il ne fallait pas dessiner dessus, contrairement à Paris où elles étaient en papier. Donc, quand on a vu toute cette œuvre-là, tous ces petits dessins, et quand on voit les murs de son atelier, on se dit c'est extraordinaire. On a l'impression de vivre dans sa tête. Parce qu'au fond, sur les murs, il avait une idée, il a dessiné tout de suite. Il avait l'idée d'un visage, et il le crayonnait. Il faisait un croque-barre. La seule chose qui manque peut-être, c'est que dans cet atelier, qui était très très petit, c'était le niveau de 3 mètres sur 3, encombré de statues et de plâtre, il ne voulait pas que les fenêtres soient nettoyées. Mm-hmm. Parce qu'il aimait bien le gris de la poussière qui s'installait. Alors, comme il laissait un peu, pas du tout à l'abandon, mais il laissait vivre ce lieu, qui était un peu l'intérieur de sa boîte crânienne, il y avait un arbre qui poussait dehors, dans la cour, et qui avait introduit une branche par un des carreaux cassés.
Uh-huh.
Et pour moi, c'est la seule chose qui manque dans la reproduction, reconstitution de l'atelier, c'est d'imaginer qu'il y avait même du végétal qui était entré dans ce lieu.
Effectivement, donc un lieu vivant.
Oui.
J'ai lu aussi qu'il interdisait à Annette de venir y faire les poussières, puisque la poussière avait une valeur à ses yeux. Et bah, quelque part, c'est aussi la trace du temps qui passe. Hein.
Exactement.
Oui. Oui.
Exactement. Son œuvre, il l'a laissé se faire travailler par le temps. Il trouvait qu'il ne fallait pas ajouter quoi que ce soit. Et ça a quelque chose de très magique au niveau de l'ensevelissement. Pendant la guerre, il est parti en Suisse. Enfin, il est parti voir sa mère et il n'a pas pu revenir parce qu'il y avait déjà vous savez, la Suisse était neutre, donc il ne pouvait pas revenir en France. Et pendant ce temps-là, il avait caché ses œuvres en les enterrant dans le plancher de l'atelier. Donc vous imaginez déjà que c'est la terre battue.
Oui.
Imaginez Diego, le frère d'Alberto et Alberto, en train d'enterrer ses statues. Après les déterrer après la guerre. Donc c'est un peu l'idée de l'ensevelissement, un peu l'idée de la mort, mais aussi l'idée de la germination et de la fertilité.
Ah oui, en effet, il y a ces deux idées. Parce qu'en observant certaines de ces statues, enfin moi je ne peux pas m'empêcher de penser à la mort. Il y a des statues qui, par leur des visages émaciés, creusés, des silhouettes elles-mêmes ténues.
Les couleurs.
Des
tant
couleurs.
En tableau qu'en sculpture, nous sommes toujours dans les gris, dans le noir.
Mm-hmm.
Tout à fait, oui.
Donc la mort semble occuper une place importante dans son esprit.
Alors... Énorme. Je crois que c'est la lutte contre la mort, c'est au fond la lutte contre le temps.
Mm-hmm.
Mais ce qui est formidable, c'est que la mort est constamment présente dans sa vie. Pour mille raisons, il a eu d'ailleurs sa seule sœur est morte en couche.
Mmh.
Enfin, la mort est très présente. Son père est mort très tôt.
Mmh.
Mais si vous remarquez, puisque vous venez d'évoquer les statues, c'est toujours tout sont assez présents, le temps est présent, on sent, comme dirait Brel, la pendule du salon qui dit oui, qui dit non et qui nous attend. Mais en même temps, les personnages, ils ont toujours, comme dans l'art grec du début, et ils ont toujours un pas, ils marchent, ou un geste, l'homme au doigt, l'homme qui marche, la femme entre deux maisons. Et c'est ça que je trouve formidable. C'est cet effort de se tenir en vie. Et ça me fait tout de suite penser à une citation de Giacometti qui disait « L'effort incroyable qui est nécessaire pour se tenir debout. » Donc, pour vivre en sachant qu'on est mortel. Donc, ça veut dire que la mort l'habite, comme elle nous habite tous, croit en nous, de même que la vie, mais une affirmation contre la mort sans arrêt qui me semble extrêmement optimiste, je dirais.
Oui, et puis quand on l'écoute parler, effectivement, on n'a pas
sensation. Il était plein de vie.
Oui.
Et d'ailleurs, à maison, je ne savais pas, mais si j'avais su ça dès le départ, ça aurait été déjà une raison suffisante pour que j'en entreprenne la biographie. Il était tellement chaleureux, puisqu'on a la chance maintenant de voir des films où il parle. Il était tellement chaleureux, tellement causant. Quand il était à la coupole, tout le monde venait à sa table. Il riait, il faisait des blagues, il était volontiers provocateur. Et ce côté presque extraverti, surtout pour un Suisse, pour un montagnard, on le retrouve tellement filtré dans le sérieux, filtré et décanté dans les œuvres. Et je pense qu'il y a une stylisation absolue dans son travail. Et puis, en même temps, qu'il était plein de vie, et ça, il le donnait dans ses contacts quotidiens.
Par contre, quand il est en train de travailler, puisque, comme vous le soulignez, on peut le voir dans certaines vidéos d'archives, il est hyper concentré. Et là, il n'y a pas un sourire. Il paraît qu'il interdisait même à ses modèles de sourire pendant les séances de pause.
Donc, là, exactement. Le moindre mouvement. Il était hyper concentré.
Et on sent un engagement complet, il est vraiment totalement immergé dans ce qu'il est en train de faire, faire et défaire et refaire d'ailleurs.
Oui, exactement. De temps en temps, dans les expositions ou dans les hommages, on le voyait, il intervenait, vous savez, il travaillait sur le plâtre, donc parfois il était encore mobile, on le voyait avec son petit canif, c'était son outil, hein, c'est moins le ciseau et à la Rodin, il avait un petit canif, un couteau suisse dans la poche, et c'est avec ça qu'il travaillait, ou alors avec les doigts. Et beaucoup de ces modes-là, j'en conserve les empreintes digitales, ce qui est extrêmement émouvant quand on regarde, surtout les empreintes du pouce. Donc, je vous disais, quand il était dans des expositions, on a plusieurs témoignages qui commençaient à retravailler les œuvres. Il trouvait que ce n'était pas bien fait, il sortait son canif de la poche et il faisait. Alors, ce qui est très drôle, c'est que très souvent les œuvres ne lui appartenaient plus, elles étaient achetées par des collectionneurs. Donc, de temps en temps, il y a eu son grand ami Kornfeld, qui est un formidable marchand d'art qui m'a beaucoup aidé pour le livre. Et c'est un ami intime de Giacometti, il doit avoir 90 ans, mais il est lumineux, vivant, enthousiasmant. Et il me disait que de temps en temps, il lui signalait, il lui disait, mais ça ne vous appartient plus, Alberto. Cette œuvre, elle est achetée, elle n'est pas à vous. Puis il continuait tranquillement, puis il disait, non, mais c'est mieux comme ça, je l'améliore.
Oui. Alors pour apporter un petit complément, j'ai envie de lire un petit extrait d'un entretien qu'il a eu en 62, un entretien intitulé « Pourquoi je suis sculpteur ?». Alors la question qui lui a été posée, c'est « Est-ce qu'un artiste est un être anormal ?» Et il répond, voilà. « Eh bien, d'une certaine manière, c'est plutôt anormal de passer son temps, au lieu de vivre, à essayer de copier une tête, d'immobiliser la même personne pendant 5 ans sur une chaise tous les soirs, d'essayer de la copier sans réussir et de continuer. Ce n'est pas une activité qu'on peut dire exactement normale, n'est-ce pas? Il faut être d'une certaine société pour qu'elle soit même tolérée, parce que dans d'autres, on ne pourrait pas la tolérer. C'est une activité qui est inutile pour l'ensemble de la société. C'est une satisfaction purement individuelle, extrêmement égoïste et gênante, par là même au fond. Toute œuvre d'art est enfantée totalement pour rien. Tout ce temps passé, tous ces génies, tout ce travail, finalement, sur le plan de l'absolu, c'est pour rien. Si ce n'est cette sensation immédiate dans le présent que l'on éprouve en tentant d'appréhender la réalité. Et l'aventure, la grande aventure, c'est de voir surgir quelque chose d'inconnu chaque jour dans le même visage. c'est plus grand que tous les voyages autour du monde.
Vous écoutez toujours Lire des livres avec Paz et son invité Anka Vizdei sur Radio Albitzes.
C'est absolument sublime et c'est tellement juste pour tous les artistes ou tous ceux qui essayent un tout petit peu d'apporter au monde quelque chose qui n'existait pas avant. La plus grande partie de la citation, quand il dit l'activité anormale de se mettre à créer à partir de rien quelque chose que personne ne vous demande, écoutez, je pense que chaque fois que j'écris, je sens exactement ça. Et je sens aussi, comme il le dit si bien, le privilège que dans certains milieux, dans certaines sociétés qui sont débarrassées des besoins primaires, qui les ont résolus, on se dit, mais c'est incroyable qu'on puisse avoir ces moments de création pure qui ne répond pas à une demande immédiate. Je trouve absolument brillant ce qu'il écrit et c'est exactement la vie d'un écrivain à son établli.
Alors voilà, quelques décennies plus tard, tout est toujours valide.
Et il a mieux dit que je ne l'aurais écrit.
bon voilà, malheureusement, le temps passe. Il y a tellement de facettes qu'on n'a pas évoquées. Par exemple, les femmes qui ont beaucoup compté dans sa vie.
Ah oui, oui.
Alors il y a sa mère, Aneta, qui...
C'est grâce à elle que les hommes de la famille ont toujours eu du génie. Elle avait une sorte de force, pas seulement d'intendance, mais une force vraiment d'accoucheuse spirituelle. Et c'est grâce à elle que le père, Giovanni, a pu, dans ce Val Bregaglia, continuer à exercer la peinture. C'est grâce à elle que Alberto, qui était sûrement un génie, mais qui avait besoin aussi d'un double, d'un praticien. Là où il avait l'idée, il avait besoin de quelqu'un qui continue. Donc c'est de nouveau grâce à Annetta Giacometti que le frère Diego, d'un an plus petit, a été envoyé à Paris et qui a servi toute sa vie à son frère avec son total accord et une totale fidélité. Il lui a servi de praticien, de double et puis parfois même de soutien moral.
Oui, là, franchement, on peut souligner l'engagement complet de toute la vie hein, du jeune frère, puisqu'il n'avait qu'un an d'écart, qui, dans son jeune âge, a été victime d'un accident qui lui a un peu blessé une main. Et on se demande si...
La pente fait exprès.
Ouais, je vous laisse.
Oui, le génie de la famille étant Giacometti et ce qui se voyait déjà, effectivement, il a mis la main droite dans une machine agricole. Mmh. Il n'a même pas pleuré quand deux phalanges ont été sectionnées. Mmh. Et effectivement, ce n'est pas l'idéal. Cette automutilation est assez fabuleuse. Et ça nous explique aussi pourquoi Giacometti, en plein surréalisme, s'est beaucoup intéressé aux rêves. Il a souvent écrit ses rêves. Je reproduis ceci dans le livre parce que c'est passionnant de voir un homme aussi sérieux, aussi concentré, qui en même temps a les antennes suffisantes pour écouter, sentir et vibrer à toutes les découvertes psychanalytiques, philosophiques autour de lui. Mmh, mmh. Et même à l'ancré, au fond. Mmh.
Alors, on ne va pas, bien sûr, développer tous les chapitres du livre qui sont nombreux et nourris, vraiment très, très, très intéressants.
C'était un bonheur de cheminer à côté de lui, parce qu'on J'imagine, a toujours oui. l'impression d'un homme qui vit, mmh. Qui capte tout, mais en même temps, qui est tendu toute sa vie vers un but qui, au fond, le soutient, comme un oiseau en vol.
Oui, un peu à la recherche d'une perfection inatteignable, mais néanmoins, Exactement. Il reste sur le chemin. Quoi.
Oui, 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 c'est ça qui est fabuleux, et c'est pour ça que j'ai pensé à l'image de l'inaccessible étoile.
Mmh, mmh, mmh. Alors, j'ai une ultime question avant de vous demander de relire un passage du livre. Est-ce que... Voilà, ça vous a pris plus d'une année, hein, j'imagine, la rédaction de ce livre, à partir du moment où vous avez décidé de le faire, d'aller sur les lieux, de vous, vraiment de vous imprégner de ce qu'avait été sa vie, ses rencontres, son œuvre. Est-ce que tout ça a changé le regard que vous portiez sur sa création ?
Oui, certainement. D'ailleurs, on a eu un petit problème. En principe, moi, je consacre un an et demi un sujet aussi passionnant, parce qu'il y a un temps idéal. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps pour qu'on ne perde pas la fraîcheur, et surtout la fraîcheur qu'on doit transmettre au public. Mm-hmm. Dans son, on doit découvrir presque les choses en même temps que lui. Donc, il ne faut pas que ça soit trop long. En même temps, il ne faut pas que ça soit trop court pour pouvoir s'abreuver à toutes les sources possibles, d'abord le temps de les chercher, le temps de les explorer. Et là, il y a eu un petit problème, c'est qu'il y a eu le décès de mon éditeur, donc le livre est maintenant édité chez Odile Jacob. Mais mon précédent éditeur est décédé, ce qui fait que ça a rallongé, et j'ai fait au fond des recherches plus longues que d'habitude. J'ai eu quelque chose comme 2 années de recherche sur les lieux, de lire la littérature abondante, et ça, quand j'ai commencé à rédiger, j'avais très très peur de savoir trop de choses. Et que justement la masse de documents que j'avais dans la tête m'empêche d'être dans la spontanéité qui est nécessaire pour une autobiographie qui n'est pas romancée, mais qui est vraiment sentie de l'intérieur. C'est une autobiographie d'écrivain. Mm-hmm. Ce n'est pas une thèse. Et j'ai eu très très peur. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait des choses que j'avais pas vues au départ. J'avais vu au départ le sérieux, mais j'avais pas vu le fabuleux appétit de vivre. C'est un homme très correct qui a respecté tous ses engagements. Mais pendant ces 2 ans, j'ai senti physiquement le côté cannibale qu'il avait, que tout artiste de génie finit par avoir, sinon il ne fait pas d'œuvre. Et j'ai senti ce côté, vous l'évoquiez tout à l'heure, quand il interdisait au modèle même de sourire. Il y a une qualité de concentration tellement forte que toute interruption est quelque part ressentie comme une sorte de viol, de blessure. La concentration est tellement forte qu'on a l'impression de transférer un bulle sur le fil. Et que tout, ou un somnambule, et que toute interpellation risque de vous faire perdre pied et carrément vous faire disparaître dans un néant qui est imaginaire mais qui est ressenti. Et c'est ça que j'ai appris dans les 2 ans où j'ai dû vraiment tenir mes chevaux et ne pas foncer sur l'écriture. Le côté cannibale, je ne voyais pas. Je voyais le côté génie, je voyais l'accomplissement, je voyais le côté ermite. Et là, j'ai réalisé à quel point cet homme qui était doux, qui avait une enfance magnifique, a dû être dur avec lui-même et dur avec les gens autour de lui.
Merci beaucoup pour ce... Oui, c'est... On peut pas ressortir après 2 ans d'intérêt profond pour un artiste et son œuvre. On ne peut pas ressortir comme on y est entré. C'est impossible.
Absolument. Et c'est même une des raisons, j'en suis persuadée, on parlait de l'envie d'écrire des biographies, presque la nécessité. Mm-hmm. C'est une des choses les plus importantes, c'est que le livre doit nous transformer. On espère toujours qu'il apprend quelque chose, qu'il modifie un peu le lecteur. On ne rêve que de ça, au moins qu'il lui donne un moment de bonheur ou de découverte. Mais on sort transformé. Je crois que le but égoïste de l'écrivain, ou de n'importe quel artiste dans son œuvre qu'il est en train de faire, c'est aussi de se voir transformé par son travail. Mm-hmm. Et ça, c'est fabuleux. Ça, c'est le bénéfice secondaire, on va dire.
Et non négligeable.
Tout à fait.
Alors, si vous le voulez bien, on va conclure par la lecture des derniers mots du livre.
D'accord. Autour de l'église de San Giorgio, le cimetière de Borgonovo. Le soleil joue constamment à cache-cache avec les pics des montagnes, changeant d'un instant à l'autre l'univers de couleurs où nous sommes immergés. Torrents, cimes blanches, pierres grises griffées d'un soleil, un oiseau, une étoile pour Alberto, une vasque aussi, pierre grise en pied avec un rameau de bronze pour Diego, pierre grise comme un personnage accroupi pour la mère Annetta et le père Giovanni. La même pierre, le schisto grigionese, pour tous. Les revoici réunis à nouveau, les parents, les fils, Ottilia, son mari, son fils. Peut-être que, sous la terre, ils sont à nouveau ensemble, autour de la table familiale, comme dans le tableau du père. Autour d'eux, tous leurs voisins et parents, ceux qui ont fait vivre le pays, ceux qui sont partis et revenus, une tradition de la vallée. Donner au monde des architectes, des artistes et des confiseurs, depuis toujours et jusqu'à aujourd'hui, représentant un esprit artistique ouvert sur le monde, sublimé et pourtant fortement ancré dans le Val Bregaglia. Les Giacometti sont une fleur de montagne qui a ensorcelé de son parfum l'art universel.
Alors cette dernière phrase, je la trouve vraiment magnifique. Les Giacometti sont une fleur de montagne qui a ensorcelé de son parfum l'art universel.
Je suis heureuse que vous ayez repris cette phrase parce que ça me permet de dire que aussi, comme tout le livre, c'est aussi une très petite lettre d'amour pour la Suisse où j'ai trouvé l'asile et où j'ai appris le français. Mmh. Donc ce pays qui a apporté Giacometti, il m'a apporté à moi aussi le français. Mmh.
Merci beaucoup Anka Visdey. Donc on était avec vous aujourd'hui pour votre livre Alberto Giacometti, sous-titré Assaise et Passion, aux éditions Odile Jacob. Donc c'est un livre qui est paru en début d'année, auquel on souhaite longue vie. Alors on pourrait dire une biographie de plus parmi d'autres, mais qui mérite vraiment le détour. Voilà, je la recommande à tous les auditeurs de Radio Albigès et au-delà. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin.
Paz, merci infiniment. Vous m'avez donné le plaisir de reparler d'un sujet que j'adore et de découvrir avec vous des nouvelles facettes.
Voilà, l'échange est toujours riche.
Merci à Paz et son invité Anka Visdey, à retrouver sur internet www.ankavisdey.com. Merci pour la musique à Beethoven, la lettre à Élise, jouée par Thierry Châtelain, et merci pour ce générique de fin à Georges Migoya, si Giacometti m'était joué. C'est la fin de cette émission Lire des livres, une émission enregistrée le 4 septembre 2019.